Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau panier qui va parler de bouquins. Oui, alors attention, prenez un stylo, un cahier ou une feuille ou un bout de journal et comme ça vous pourrez vous ruer à la librairie indépendante du coin ou à la médiathèque pour les demander si cela vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite en musique et on va attaquer avec un roman régional. Voilà, oui, ah bah écoutez, nous on lit de tout. Hein, voilà. Alors la musique, est-ce que ça a un rapport écoutez, c'est le lutin qui a choisi la chanson, hein, donc le rapport, oui, ça a un rapport, on va dire dans les sentiments, le rapport avec l'endroit, moyen quand même, hein. Enfin bon, bref, c'est son choix. Jean-Jacques Goldman, oui, il aime bien Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, sache que je, et après on parle du roman régional. Tu me mets dans des situations, toi, je sais pas, je ne comprends plus.
Il y a des ombres dans Je t'aime, pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent. Il y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour à son langage. Moi les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un saut sur un parchemin. Alors sache que je sache-le. Sache que je ni à mourir dans Je t'aime. Je ne vois plus que toi. Mourir au monde à ses poèmes. Ne plus lire que ses rimes à soi. Un malhonnête stratagème. Ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question dans Je t'aime qui demande m'aimes-tu toi? Alors sache que je sache-le. Sache que
Alors, c'était Jean-Jacques Goldman avec « Sache que je... » Voilà. Alors, on va parler d'un roman régional qui s'appelle « Le Puy Amélie » de Marie Kuhlmann. C'est un roman régional qui se passe quelques années avant, en tous les cas, la Première Guerre mondiale et qui, évidemment, continue pendant et après, un tout petit peu après, dans cette partie d'Alsace ballottée entre la France et l'Empire prussien, enfin allemand. Alors un tout petit, on parle un peu de la Moselle, mais très très peu, c'est vraiment en Alsace que ça se passe. Nous croisons les destins de femmes et d'hommes qui n'ont eu que peu d'options pour travailler quand leur commerce ou leur activité viticole les ont poussés en fait à trouver un autre travail. Et cet autre travail, cette seule opportunité dans le coin, en fait, c'est la mine de potasse qui descend à plus de 600 mètres de fond, qui use les corps, les âmes et qui ronge la vie de tous par tous les trous. Hein, la potasse, sel, etc., ça ronge. Et Marie Kuhlmann, en fait, évoque la vie difficile de ces personnes qui sont souvent bien courageuse mais très malmenée. Alors on a comme personnage par exemple Antoine qui est fou amoureux de Jeanne depuis leur enfance, qui se fait éconduire par cette dernière après qu'ils se soient promis le mariage parce qu'elle lui préfère un vigneron vieux mais riche. Vous avez aussi Augustin qui est un enfant abandonné qui a été torturé par son tuteur par la suite, qui va s'échapper pour aller vivre en Champagne où il va trouver une autre famille, une vraie famille aimante cette fois-ci, et où il va apprendre le métier de vigneron différemment, en Champagne. Vous avez aussi Blanche, qui est une jeune fille volontaire, aimante, bienveillante, qui se fait engager dans l'administration de la mine, poursuivre son père qui lui a été contraint et forcé d'aller y travailler parce qu'il a perdu son commerce. Vous avez aussi Anne-Lise qui est l'amie de Jeanne qui va se faire éconduire aussi mais qui va rencontrer, en tous les cas qui va être mis sur le chemin d'Augustin. Et il y a bien sûr cette patronne avant-gardiste, Madame Zucker, qui a vraiment existé hein, en Alsace, qui arrive ici pour voir un peu comment veiller non seulement au bon fonctionnement de cet endroit, mais surtout aussi au bien-être des personnes qui y travaillent. Et vous avez un certain Kurt Friedrich, qui est le chef du fonds allemand, et qui va provoquer quand même pas mal de choses. Alors c'est un roman qui est très facile à lire, vraiment, sans être simpliste, sauf que j'ai trouvé la fin beaucoup trop facile. Mais bon, voilà, c'est des destins croisés, des histoires qui sont bien sûr un peu romanesques, quelquefois un peu trop, mais ça va. Mais par contre, le fond est très intéressant, puisque le principal en fait sujet, c'est le destin des Alsaciens et, on va dire, en ricochet des Mosellans, même, comme je vous l'ai dit, puisqu'on évoque pratiquement que l'Alsace et de temps en temps on cite un peu la Moselle, depuis 1871. Ce territoire, donc, qui parlait très peu l'allemand, ou le français d'ailleurs, puisque c'était la langue alsacienne qui était la principale, langue officielle en fait de ce territoire, qui en fait barrait tous les gens de ce pays, qui ne pouvaient donc pas accéder à des postes de responsabilité, qui étaient d'ailleurs réservés aux Allemands de souche, qui est quand même assez ballot quand on sait qu'ils étaient aussi allemands de nationalité, annexé, mais voilà, donc en fait, annexé ou pas, vous étiez une des catégories, des citoyens de seconde zone. Alors ceux qui sont restés après 1871, en gros, c'était ceux, beaucoup, qui n'avaient pas les moyens de partir, ceux qui avaient un commerce, qui ne voulaient pas perdre tout ce qu'ils avaient. Ceux qui sont partis, c'était, la partie française, c'était ceux qui avaient un peu plus les moyens de tout laisser tomber. Alors oui, évidemment, en 1914, logiquement, les hommes, sauf ceux qui avaient fait leur classe en France, par exemple, comme le personnage Augustin, qui était en Champagne quand il a fait ses classes, donc il a fait côté français, mais tous les autres ont fait leur classe en Allemagne. Ils ont combattu sous l'uniforme allemand. Pour se retrouver français en 1918, et donc voir arriver les Français en vainqueurs qui les ont traités exactement de la même façon que les Allemands les traitaient, c'est-à-dire comme des citoyens de seconde zone, pour se retrouver allemands en 1939 alors qu'ils étaient fiers d'être Français et qui sont devenus pour beaucoup des malgré nous. Voilà, alors c'est vrai qu'à travers ces destins et ce roman-là, c'est vraiment l'histoire intense de ce coin de France et assez bouleversant quand même quand on voit le ballotage et les conditions de vie, etc. Donc c'est encore un beau roman régional, vraiment. C'est toujours agréable en fait les romans régionaux. Alors si vous connaissez un roman régional qui se passe en Moselle à peu près à cette période-là, je prends. Voilà. Oh, bah allez-y, hein, sur le Facebook de la radio, vous me taguez, vous me dites, ah, il faut aller lire celui-là. Moi, j'aime bien. Allez, on fait une petite pause musicale et après, on se retrouve pour un thriller. Un thriller nordique, on appelle ça, désormais. Allez, Jacques Dutron, on nous cache tout, on nous dit rien. Oui, il y a un mot qui est dans le titre aussi. Ouais, bah, écoutez, c'est facile, mais on essaye de se creuser les ménages, mais des fois, on n'y arrive pas toujours. Surtout lui.
On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Alors c'était Jacques Dutronc avec On nous cache tout, on nous dit rien et on va parler de cache-cache. Oui, oh bah ça va, c'est facile. Soren Westrup, que j'ai reçu comme cadeau du Papa Noël. Il est bien ce Papa Noël. Bon bref, s'en fout. Alors, on le sait, les écrivains nordiques du polar ont vraiment un souffle particulier et même si l'idée de départ peut vous paraître des fois simple au fil des pages, que les intrigues se développent et se complexifient, et c'est là que ça trouble le lecteur. Et c'est encore le cas pour cette suite d'octobre, donc de Soren Westrup, hein, si vous avez suivi, d'ailleurs, qui est une série adaptée. Voilà, très bonne série d'ailleurs. Alors, je dois avouer que j'avais vraiment hâte de retrouver ce duo d'enquêteurs. Et ce côté quand même un peu tordu de l'auteur, il faut l'avouer. Alors le point de départ, c'est la découverte d'un corps en 1992 lors d'une sortie scolaire et d'un simple jeu de cache-cache. Des années plus tard, en fait, il y a une série de meurtres qui réveille en fait cette sordide affaire et qui commence à effrayer la police parce que un tueur traque socialement et digitalement ses victimes en leur énonçant une comptine avec des photos de leur vie volées à l'appui. Alors parmi les victimes, il y a une Caroline qui a été tuée 2 ans auparavant et qui semble liée à ce meurtrier. Et quand des nouveaux meurtres se produisent, sa maman, Marie, va décider de se lancer dans l'enquête au détriment de sa famille. Hein. Elle va carrément s'oublier dans cette enquête-là. Et de l'autre côté, la police danoise est saisie, évidemment, et les soubresauts qui avait fait de l'enquête d'octobre au sein de la police, Tulling, donc, qui est l'enquêtrice, se trouve chargée de cette affaire et des affaires qui s'accumulent, hein, parce que le tueur, il s'amuse beaucoup. Alors, elle aurait été souhaitée être toute seule à la tête de l'affaire, mais elle voit débarquer le flic d'Interpol S, qui va se rajouter à ses problèmes personnels. Alors, lui, il n'a aucune envie d'être là. Le seul truc, il est de retour au Danemark uniquement pour une chose, c'est que son frère est en train de mourir à l'hôpital. On comprend très vite qu'ils ont eu une relation, on va dire, pendant quelques temps, mais qu'il a fui. Et que c'est un peu tendu. Alors, à chaque pierre qui est soulevée, se pose une question sur ce meurtre. Et le schéma de meurtrier et le secret se dévoile petit à petit à travers la vie de ces personnes qui sont traquées. Alors évidemment, en parallèle, on suit bien sûr la relation entre Tulin et S, que ce soit à titre familial, amical, amoureux ou même professionnel. Chacun a ses failles, ses remords, ses regrets, les emmerdements qui vont avec. Et sans compter, bien sûr, la tension de cette enquête qui ne faiblit jamais. Alors, entre révélation, trac, douleur des familles, j'ai trouvé le personnage de Marie et sa sourde douleur et son désespoir vraiment magnifique. Et bien sûr, la pression politico-policière, on va dire. Cache-cache est vraiment un bon roman qui se lit avec avidité. Même si on connaît les mécanismes des polars nordiques, c'est pas grave, on y va. Les chapitres sont courts, ils sont rythmés. Quand même une belle pavasse. Alors, il y a 2-3 longueurs de ci, de là. À un moment donné, on se dit, oui, oh, bah, ça, c'était peut-être pas nécessaire. Mais écoutez, on n'est pas l'auteur, hein, donc on fait avec. Moi, j'ai vraiment été happée par l'histoire, notamment par les histoires personnelles de chaque personne et toutes les choses trappes et autres pas joyeuseté, d'ailleurs. Soren Restrup, il joue, en fait, avec les peurs actuelles, notamment des réseaux sociaux et du fait de cette surexposition des vies à la vue de tout le monde. Et on a beau le dire, faites attention quand même, voilà, tout se retrouve sur Internet. Il développe ses personnages, il développe le contexte, il développe les descriptions de Copenhague. C'est très belle, très bien fait, des environs d'ailleurs, hein. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est très beau le Danemark, il faut y aller. Et aussi le système judiciaire et policier danois. Vraiment, j'ai bien aimé me paumer, moi, dans ces 700 pages des poussières. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, quand on aime le polar nordique, et ben voilà, il faut accepter que l'auteur essaye de vous noyer de temps en temps. Le final, même si on s'en doute un tout petit peu, mais moi personnellement pas trop quand même, enfin j'ai pas avant la seconde moitié quand même, hein, voilà, est vraiment palpitant et ça s'enchaîne. Et à un moment donné, on se dit, ah ouais, merde, alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, franchement, Soren Vastrup, c'est vraiment il a trouvé un bon duo d'enquêteurs, une bonne recette, pourvu qu'il continue, hein, perso. Voilà, donc ça s'appelle Cache-Cache. Soren Vastrup, c'est sorti, je crois, en octobre, en novembre dernier, donc c'est récent. Voilà, attendez-le en poche si vous voulez, ou allez à la médiathèque du coin. Hein. Écoutez, on trouve les solutions qu'on peut. Alors, on va parler après d'un livre vraiment qui a été le coup de cœur du mois de février. Vraiment, alors, un bijou, le truc. On va écouter la musique d'abord, une chanson qui s'appelle « You're my heart, you're my soul ». Oui, « Modern Talking ». Ah bah, c'est plus très jeune, hein, c'est plus très jeune. Ah bah non, plus du tout d'ailleurs. Mais écoutez, on est vieux, on est vintage. Voilà, nous, on se dit qu'on est vintage, enfin moi, en tous les cas.
shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together.
C'était Modern Talking avec Your My Heart, Your My Soul, et on va parler Le Chemin des âmes de Joseph Boyden. Ah bah oui, alors quel roman. Honnêtement, c'est un roman où j'ai su que c'était un coup de cœur à la 81e page, vraiment. Et c'est resté tout au long du récit, pour vous dire, c'est assez rare ce genre de choses quand même quand ça arrive. Alors on est en 1919 dans l'Ontario, et on découvre une vieille femme de la tribu Cree qui vient de quitter sa forêt pour aller attendre un homme de retour de la Grande Guerre, donc sur le continent européen, à la gare. Donc elle a fait du canoë, elle est venue en canoë, elle a remonté la rivière, elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle est assez âgée. Lui, en fait, est parti avec deux garçons sont partis, Elijah et Xavier sont partis dans l'armée canadienne pour aider la France contre l'Allemagne. Et contre toute attente, en fait, parce qu'on avait dit qu'il était décédé, Niska, donc cette vieille femme, voit arriver Xavier, son neveu qu'elle a élevé. Elle le voit descendre du train, invalide, unijambiste, gravement atteint moralement. Et lui est aussi surpris parce qu'on lui avait annoncé la mort de cette dame. Alors Niska n'a qu'une obsession, en fait, va vouloir le ramener à tout prix chez eux. Elle va re-emprunter la rivière, cette fois-ci dans le sens beaucoup plus facile du courant, dans leur canoë. Et elle veut le sauver absolument parce que Xavier est hanté, littéralement, par ce qu'il a vu là-bas. Et en fait, le récit se dédouble constamment en alternant les récits de Niska et de Xavier. Lui, évoque son addiction à la morphine suite à ses blessures et le fait qu'on lui ait coupé la jambe, enfin en tous les cas sous le genou. Il retrace les années de la guerre, que ça soit le départ enthousiaste avec son ami, la camaraderie des autres, l'isolation volontaire parce qu'il parle assez mal la langue, mais aussi et principalement l'horreur des tranchées, la guerre, la drogue, le sang, les tripes, la déchéance, le fait que son ami est devenu une machine à tuer, etc. Et il se remémore la folie meurtrière de ses camarades, de son ami, que son esprit erre en fait tout le temps entre la volonté de mourir parce qu'il pense qu'il n'y a plus rien derrière, et celle de la vie dans ce canoë parce qu'il entend des bribes de ce que sa tante lui raconte. Et ces 3 jours de route sont là pour le sauver de lui-même, et lui-même, ou pas d'ailleurs. Alors le titre originel est beaucoup plus évocateur, c'est un trajet de 3 jours en fait, en gros, ou un voyage de 3 jours. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli. Après, le chemin des âmes s'explique aussi, puisque voilà, bon bref. Et de l'autre côté, l'autre récit qu'on a à l'alternance, c'est celui de Niska, qui elle décide de rattacher Xavier à la vie, à leur monde, à leur tradition. Donc elle va lui parler de sa vie de jeune fille, de sa sœur, donc qui était la mère de Xavier, des traditions des cris, de l'héritage culturel qu'ils ont, de la défense de leur peuple face aux envahisseurs, à l'assaillant. Alors elle vieillit, elle sait qu'elle va bien mourir bientôt, et en fait elle refuse que tout ça disparaisse avec elle. Et l'alternance de ces deux récits, face à deux personnalités différentes, de deux histoires personnelles, c'est quelque chose qui bouleverse tant par l'horreur que par l'espoir qui s'entremêle constamment. J'ai adoré ce texte. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité d'une part et d'autre, y compris d'ailleurs dans l'horreur décrite de la guerre et de la mort qui rôde tout le temps. Et le fait que cette rivière coule porte ce duo de cette équipe qui a été malmenée par la vie, par le manque de reconnaissance, par la perte aussi, que ce soit d'un être cher ou d'une tradition, du fait qu'on parle de nature, des descriptions de la nature qui maltraite autant qu'elle peut aimer, puisque voilà, ils vivent en harmonie normalement avec la nature. Et c'est bien sûr aussi une description et un constat assez affligeant de la destruction de ces natives, comme on les appelle, là en l'occurrence des tribus au Québec et au Canada, de leurs rites, de leurs coutumes, de ces hommes blancs, de ces envahisseurs qui est absolument affligeante, de la Grande Guerre qui s'est avérée aussi absurde et traumatisante pour tous ces hommes qui en fait ont perdu leur âme. Et sûrement la foi envers l'être humain pendant cette guerre-là, mais qui ont été obligés de revenir vivre une vie entre guillemets normale, alors qu'eux n'avaient plus rien de normal dans leur tête, quoi. C'est vraiment un roman qui est vraiment magnifique. L'histoire, l'émotion sont tout le temps fortes. C'est toujours à fleur de peau. C'est vraiment un texte magnifique, vraiment c'est j'ai été émue aux larmes à chaque fois. Donc vraiment, ça s'appelle Le chemin des âmes de Joseph Boyden. Si vous avez l'occasion d'y tomber, c'est en poche, n'hésitez absolument pas, vu la beauté du texte et de l'histoire. Petite pause musicale pour remettre Lisa. Ah oui, oh, il faut remettre Lisa. Alors c'est Sonia Evans avec Better the Devil You Know. Oui, on va parler d'un livre où le diable est là. Ou en tous les cas, pas celui que vous imaginez. Mais écoutez, hein, oui, non, mais c'est compliqué parce que.
Yeah.
Alors, moi, je n'y suis absolument pour rien. Hein. Je dénonce tout de suite, because c'est le lutin qui a choisi. Oh, punaise. Voilà, non, écoutez, moi, quand je lui dis, tiens, il faudrait trouver un truc avec des vols, moi, je pensais à INXS, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, écoutez, c'est affligeant, on est désolé. Enfin, moi, en tous les cas. Alors, on va parler d'un livre qui s'appelle « Le diable se moque bien des histoires d'amour » de Brigitte Moreau. C'est une de mes amies qui me l'a offert pour Noël. Écoutez, elle m'a dit « Je pense que tu vas trouver matière à réfléchir. » J'adore quand elle fait ça. Alors, nous sommes dans un pays européen qui n'est pas nommé, qui n'est pas la France d'ailleurs, où l'État administre tout, y compris les mariages. Alors, c'est une société qui est coupée en deux. Vous avez deux castes, les supérieurs et les inférieurs. Aucun ne fréquente l'autre, hein, on est bien d'accord sur la question. Et chaque caste possède sa hiérarchie selon un pédigré, et notamment les supérieurs, qui ont un pédigré très détaillé et très établi. C'est-à-dire que votre vie dépend de vos quotients intellectuels, de beauté, d'avenir professionnel, d'avenir pour la caste, c'est-à-dire votre appui, votre apport pour votre caste, et bien sûr la richesse que vous avez. Ça établit un classement, notamment pour les jeunes hommes qui, à 25 ans, doivent convoler pour perpétuer, bien sûr, les supérieurs, tout en restant, bien sûr, dans leur rang et sans, bien sûr, surtout de se décevoir l'État qui leur fournit un travail, une maison, toutes les prestations possibles et inimaginables, des personnels de maison, enfin bref, tout ce que vous voulez. L'État exige une seule contrepartie, choisir une épouse qui cadre, et bien sûr avec le pétriquet de l'homme, et qui est ainsi payée par une dot qui est constituée par la famille de cette jeune femme. La jeune femme doit, à 19 ans, épouser un jeune homme de 25 avec une dot. Et donc, en fait, en gros, le roman s'ouvre avec quatre personnages, en tous les cas avec trois personnages au début, qui sont Mia, Clément et Raphaël, le jour des épousailles. Donc, alors attention, pas de fioritures. Hein. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est... allez, on vous marie, on signe l'acte, au revoir, circulez, il n'y a rien à voir. Et donc, personne n'a le droit à la parole, sauf bien sûr le montant de la dot que le père fournit pour, entre guillemets, acheter le marié, et l'officier d'état civil qui est là pour approuver l'union. Alors Mia, elle, veut épouser Clément, et vice-versa, parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, c'est le meilleur ami de du frère de Mia. Le père de Mia est conscient du fait, il a rassemblé une dot conséquente, tout le monde part fleur au fusil, à part qu'il y a un autre père qui surenchérit pour payer à sa fille le garçon parfait, puisque Clément est noté comme étant le mec parfait. Enfin, en tous les cas, selon les quotas et les quotients établis par l'État. Alors, elle est désespérée et elle se voit attribuer l'autre garçon qui est très bien noté, qui s'appelle Raphaël, qui alors lui est un bon garçon, un bon élève, un bon citoyen, un vrai bon gentil garçon, mais qui est complètement largué dans cette histoire. Et une fois que la transaction arrive, les couples ont 2 ans. Oui, c'est une autre condition, pour procréer et évidemment offrir à l'État la descendance des supérieurs. Alors, l'avantage, ça serait que quand même vous ayez des garçons, et c'est là qu'on se dit que l'État a mal calculé le coup, hein, s'il fait que des garçons, pour avoir des points supérieurs toujours à votre quotient, pour pouvoir vous faire garder et gagner tout le temps. Et si dans les 2 ans vous n'avez rien, eh bien votre mariage est dissolu et votre famille est impacté des deux côtés, donc ça veut dire que la honte, l'impossibilité de maintenir dans sa caste, etc. Donc il y a quand même une grosse pression. Et nous, on va suivre au cours des mois plus d'autres, donc 5 personnages, dont évidemment Mia, Clément et Raphaël, mais aussi Victoire, qui est la femme de Clément, cette espèce de prétentieuse, et Ève, qui est la gouvernante qui a été embauchée par l'État, et notamment par Raphaël, pour aider sa femme qui, en fait, Mia l'ignore, elle ne veut pas lui parler, elle se refuse à lui, elle s'enferme dans la maison. Donc il envoie une gouvernante qui a été élevée par le système, elle a été élevée pour servir, pour devenir... Elle vient même d'une très bonne caste, mais a été dégradée suite à un mauvais mariage. Et donc, elle a toutes les clés. Simplement, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, c'est une dystopie où, en gros, l'amour n'a pas de place. Surtout pas dans ce pays qui fournit profession, habitation, aide en tout genre, mais qui veut que le citoyen fasse honneur à la note qui lui a été attribuée. Alors, c'est une machine autoritaire. Il y a des personnes qui se débattent et qui acceptent. D'autres qui ne veulent pas et qui refusent et qui luttent contre le système, d'autres qui se réjouissent, hein, parce que c'est pour eux, c'est une chance. Ils ont été élevés comme ça, ils ont été calibrés pour ça. Et ceux qui apprécient, mais en fait, dont le cœur ne suit pas la cadence, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de quelqu'un d'autre et c'est un peu ennuyeux et ils refusent qu'on leur dicte avec qui partager leur lit. Alors petit à petit, en fait, on voit que Raphaël préfère Ève, la gouvernante, parce qu'en fait, elle est élevée comme lui, elle pense comme lui, ils sont sur les mêmes rails. Mia et Clément se débrouillent pour se revoir. Victoire, elle, ne veut que les apparences et donc râle tout le temps. C'est un roman qui est hyper facile à lire, très très aéré, alors là, vraiment très très aéré. Alors, il peut paraître très simpliste, trop léger. Mais pourtant, il offre une réflexion en fait sur les privilèges de la naissance, sur l'ascension, la force du poignet, sur la soumission, que ça soit à l'éducation ou à des règles, et surtout à l'éducation qui embrigue les gens. En cela, on pense bien sûr aux dictatures et à toutes les ramifications qu'il y a. Et bien sûr, le fait que les raisons du cœur et de la raison, c'est pas les mêmes, hein, souvent, et que ça peut impacter la société. Alors, ça parle aussi d'une société élitiste, enveloppée par une espèce d'IA qui détermine le bon grain de livret afin d'obtenir en fait le meilleur, quoi qu'il en coûte aux autres, et que à la fin, l'être humain étant un être humain, il a toujours sa force de penser. Alors, je pense que tout le monde trouvera un personnage qui résonne en lui, et la question, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Après, la fin m'a un peu déçu, il faut l'avouer. Je pensais à quelque chose de plus... peut-être plus rotor, plus peps, peut-être, mais la réflexion est bonne. Voilà, donc c'est un bon petit livre, assez sympathique si vous aimez les dystopies on va dire Big Brother ou autre. C'est assez bien fait. Alors attention, c'est pas du Orwell, hein, on va se calmer, hein. Voilà, mais c'est pas mal fait. Je vous dis, moi, la fin m'a un peu déçu parce que peut-être parce que je suis un auteur et que j'ai pensé à autre chose. Ça, c'est le problème avec le cerveau de Lisa, hein, voilà. J'imaginais autre chose et... je me suis dit, ah, c'est dommage. C'est vrai que c'est un peu plat, et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a une fin sur un personnage que j'aimais bien, et je ne sais pas ce qui lui arrive. Et alors, évidemment, ça vous permet d'imaginer, hein, on est d'accord sur la question. Mais voilà, il m'a manqué un tout petit truc. Mais c'est pas mal du tout, c'est bien fait. En tous les cas, ça part d'une bonne idée. Voilà, donc écoutez, ça s'appelle « Le diable se moque bien des histoires d'amour ». Pas faux. Écoutez, alors en mars, puisque c'est de ça que nous allons parler, en mars, on a pas mal de livres qui sont assez, étonnants. Je sais pas si c'est étonnant qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut dire étonnant ? Non, je pense pas. Mais enfin, en tous les cas, il y a pas mal de choix. On s'est dit... Voilà, comme vous le savez, enfin, ou peut-être pas, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais enfin, je vais le redire, l'année dernière, j'ai fait un appel à mes abonnés sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, etc., et aussi sur Insta, et je leur ai demandé qu'ils me conseillent des coups de cœur en poche, leurs coups de cœur en eux. Donc cette année, il y a beaucoup d'influence de ces gens qui m'ont envoyé. J'ai reçu plus d'une centaine de propositions, donc je pioche dedans assez régulièrement. Alors, le premier que je voudrais lire, c'est un livre qui m'est passé devant par hasard, et je trouve ça intéressant. En plus, le nom de l'auteur est inventé par la maison d'édition, parce que la personne qui l'a écrit, c'est une vraie personne, ne veut pas du tout donner son nom ou un pseudo. Elle a dit à la maison d'édition, vous choisissez, moi je veux rien savoir. Ça s'appelle, ce qui est quand même assez rare et ce que j'admire d'ailleurs, 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, de Camille Donc-Soulaine, hein, donc c'est un nom d'emprunt. En fait, on est avec une classe de CM2 à Bagneux, et Alice a 11 ans, et ils vont un matin être, toute sa classe, être embarqués, amenés à Orly, mis dans un avion entre guillemets présidentiel. Une heure plus tard, ils vont arriver dans un abri anti-atomique au milieu de la France parce qu'une nouvelle guerre mondiale a été déclenchée et que le gouvernement a décidé de sauver une trentaine d'enfants et le hasard a fait que c'est tombé sur la classe d'Alice. Et Alice, à l'insu de ses petits camarades, va tenir un carnet, un journal de bord en fait, pendant 106 jours, exactement du 4 février au 19 mai 2048. Et donc sur cette carnet, tout y est documenté. L'arrivée de la situation, la vie en collectivité, l'abri, les formes d'autorité, les conflits, puisqu'en fait ces enfants sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'adultes. Voilà. Écoutez, comment j'ai vu passer ça, je me suis dit, ouh, ça m'a l'air pas mal, ça. Voilà. Alors, les autres, c'est que des livres qui m'ont été recommandés. Le premier, c'est Planète sans visa de Jean Malaquais, qui se passe en 1942 à Marseille, donc à quelques mois avant l'invasion de la zone libre par les Allemands. Et donc, voilà, c'est tout le régime, on va dire, pourchassé par le régime de Pétain, de tous ces gens qui sont arrivés sur le Vieux-Port à Marseille avant, donc dans les débuts de la guerre, les deux premières années de la guerre, que ça soit les personnes qui voulaient partir, ceux qui fuyaient l'oppression, ceux qui fuyaient les exactions, ceux qui ne voulaient pas s'enrôler dans l'armée, ceux qui fuyaient le STO, ceux qui fuyaient ça, voilà. Donc c'était vraiment une faune assez bigarrée sur le Vieux-Port. Et bien sûr, il y avait les détracteurs, les mouchards, et bien sûr, juste après, la police française. Je vais lire « Pas même le bruit d'un fleuve » de Hélène Dorion. Donc c'est un roman canadien, enfin québécois en l'occurrence, puisqu'on est au bord du fleuve Saint-Laurent. Et c'est l'histoire familiale, en fait, entre Montréal et Kamouraska. Donc un siècle d'histoire familiale jusqu'en 1914. Voilà, donc écoutez, les peu de romans québécois que j'ai pu lire dans ma vie, parce que ça a été recommandé par des personnes que je connais là-bas, à chaque fois ça a toujours été merveilleux, donc on y va. Ensuite, je vais lire Buffalo Blues, donc de Keith McCafferty. On est à la veille du 4 juillet. On est dans une petite bourgade. Il y a un énorme crime qui est commis parce qu'au milieu d'un troupeau de bisons qui est tombé dans le vide, on trouve une personne, un Indien, qui gît mort là au milieu des bisons. Et donc, tout va s'enchaîner. Il y a une enquête qui va arriver avec plusieurs personnes, etc. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup, ce genre de choses en ce moment. Autre livre, et ça c'est un livre régional, vous le savez, tous les mois je lis des livres régionaux, des romans régionaux, donc je vais lire Le Pain Rouge de Marie-Paul Armand. J'avais déjà lu Marie-Paul Armand deux fois l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Là on est au 18e siècle entre Douai et Cambrai, hein, c'est son territoire. On y avait Mathilde dans une ferme qui grandit, qui est dans un petit village tranquillou, et c'est tout ce qu'on voit en fait de cette dure vie de labeur, hein, accablée d'impôts au XVIIIe siècle, avec les familles, les pillages, etc. Et cette jeune fille en fait qui va décider de croire en un monde meilleur, puisque nous sommes à quelques encablures de la Révolution française. Donc écoutez, hein, voilà. Autre et dernier livre que je lirai sûrement, c'est L'attaque du Calcutta Darjeeling, donc de Abir Mukherjee. On est en Inde en 1919. Il y a un inspecteur de Scotland Yard qui a survécu aux tranchées difficilement, qui débarque à Calcutta pour venir en tant que policier impérial. Et à son arrivée, en fait, on l'appelle sur une scène de meurtre à côté d'une maison close. Et c'est un membre éminent de l'administration coloniale qui a été tué. On retrouve une lettre dans ses affaires qui est une menace envers tous les Britanniques de l'Empire. Voilà, donc il va être épaulé d'un sergent indien et ils vont essayer de résoudre cette affaire avant que ça commence à devenir un peu problématique pour tout le monde. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, c'est très diversifié et c'est ce que j'aime en tous les cas en littérature pour lire. Donc moi je le sens bien ce mois de mars. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors n'hésitez pas, dites-nous si il y a des livres qui vous ont plu, pas plu, voilà, sur le Facebook de la radio, vous avez le droit, vous nous dites « Ah, mais j'ai entendu l'émission de Lisa, moi j'ai lu celui-là, il est moche. » Voilà, alors commencez pas à me stresser, hein, voilà. Ou vous me dites « Ah, j'ai lu celui-là parce que je l'ai entendu, ça nous a plu, etc. » C'est toujours très agréable d'avoir des retours, de savoir si vous avez lu ou pas ce que nous, on vous propose, ou pas, hein, ou pas. Souvent ou pas, d'ailleurs, hein, comme dirait le lutin. Allez, on va se quitter en musique. Avec une chanson, je pense que c'est une de mes chansons préférées. Oh bah ça fait partie quand même du top 5, hein. Ah bah oui. Oui. Ah bah je l'adore cette chanson. Puis alors les paroles, je vous raconte même pas. Un bonheur. Alors écoutez, nous on s'occupe de vos petites oreilles sur Liberté FM. Vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. Courage si vous avez encore les pieds dans la flotte. Oh là c'est compliqué. Écoutez. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, vraiment, beaucoup. Et nous, on se quitte en musique avec The Rolling Stones. Oui, Sympathy for the Devil. C'est à celle-là que je pensais comme chanson pour le roman Le Diable n'aime pas les... se moque bien des histoires d'amour. Pas de ton truc tout pourri, là. Je sais même pas ce que c'était, d'ailleurs. Oh, ce garçon... Ses choix musicaux sont quand même contestables, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, The Rolling Stone, Sympathy for the Devil, qui a été repris fortement bien par The Guns N' Roses. Différent, mais bien aussi. Mais je préfère celle-là de version. Ah, bon, hein, plus qu'on peut. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Bisous, bisous.
St. Petersburg, when I saw it was a time for change.